À Delphine, jeudi 1er janvier 1915. Aujourd'hui, je commence par te renouveler tous mes bons souhaits d'hier et par t'embrasser un gros coup. Hier au soir, le capitaine nous a tous rassemblés dans une grange et nous a présenté ses souhaits de bonne année pour nous et nos familles. Ça a été simple et grave. En quelques mots, il a indiqué la situation. Il a dit les raisons que nous avions d'espérer et rappelé les noms des camarades qui sont tombés depuis le début de la campagne avec la date de leur mort et les circonstances qui l'ont entouré. Nous avons jusqu'ici éprouvé assez peu de pertes, beaucoup de blessés mais peu de tués. Chacun était ému, songeant sans doute comme moi aux fins d'année antérieures passées en famille auprès des êtres chers. Là, à quelques kilomètres des Boches, ses souhaits de bonne santé avaient quelque chose d'empoignant. Ce matin, tous en cœur, nous sommes allés rendre au capitaine sa visite et lui présenter nos souhaits. Il était très ému et nous a serré la main avec effusion, nous renouvelant ses vœux d'hier. Ça a été simple et cordial. Ce soir, nous serons tous présentés au colonel et je te raconterai ça demain. À la même, vendredi 2 janvier 1915. Aujourd'hui, en me réveillant, ma première pensée est pour toi. Comment as-tu passé ce nouvel an? Je vais te raconter notre emploi du temps de la journée. Quand j'ai écourté ma lettre d'hier, j'en étais à la visite du capitaine, je crois. Quelques instants après, je présentais mes vœux à Legui, qui, très gentiment, me fit ses souhaits à son tour. Et puis ce furent les camarades et un certain nombre d'hommes de ma section, pas tous, car j'ai fait hier des jaloux à l'occasion de la distribution d'une somme de 150 francs en pièces de 100 sous. Un des plus mauvais soldats de la compagnie, un sale petit voyou, est allé réclamer au capitaine. Le déjeuner qui a suivi a été abondant et cordial, mais au moment où nous allions prendre le jus, le bombardement a commencé. De grosses marmites cette fois. Nous avons immédiatement envoyé nos hommes aux abris et nous avons, nous, regagné notre cave où nous sommes tous endormis, tout simplement, en attendant que ça cesse. Et ça a duré de 1 heure à 4 heures et demie. À ce moment-là, le capitaine nous a rassemblés pour nous conduire au colonel. Le nouveau colonel s'appelle Détieu. Nous ne l'avons vu qu'au crépuscule et nous avons assez mal distingué ses traits. C'est un homme d'assez forte corpulence, portant monocle, à physionomie sympathique. Il nous a tenu, ma foi, un petit discours tout à fait bien, sans phrases inutiles, et tout à fait correct, en une langue très châtiée. Il nous a assuré de sa bienveillance, et puis les présentations personnelles ont commencé. Ça a été assez court, il a eu pour chacun un mot aimable. Il nous demandait à tous notre profession. Quand il est arrivé à moi et que j'ai répondu « homme de lettres, mon lieutenant » et ajouté « lauréat du prix Goncourt » et « le capitaine », il a son brevet de chef de section et est proposé pour sous-lieutenant. « Oui, je connais votre nom, m'a dit le colonel. Rappelez-moi donc le titre de votre volume couronné. Ah, c'est ça, oui, je me souviens. Je n'ai pas lu le livre, mais je me rappelle que les journaux en ont parlé longuement. Détieu est un nom que je connais en littérature. » Jean Détieu a publié quelque part quelque chose, mais quoi, peut-être est-ce un de ses parents. Enfin, attendons. Sur cette petite cérémonie, nous sommes allés dîner. Notre cuisinier nous avait préparé un petit repas très bien, avec des provisions achetées par nous et avec celles que nous devons à la munificence gouvernementale. C'est ainsi que notre menu se composait de jambon, tripes à la mode de Caen, filets de bœuf sauce piquante, haricots verts, salade, dessert, madeleine de Commercy, petit beurre, orange, pomme, vin blanc et rouge, champagne, café. Enfin, pour finir la soirée, des beignets aux pommes. Après, les uns ont joué aux cartes, les autres plus sages se sont retirés vers 10 heures et demie dans leurs appartements et ont roupillé jusqu'au jour. J'en étais. J'ai reçu hier, en même temps que ta lettre quotidienne, une carte de ce brave Gautier, le blessé dont je t'ai parlé et dont je t'ai déjà envoyé une première lettre. Celle-ci est également très gentille, et tu me ferais plaisir en lui envoyant avec un petit mot un colis contenant quelques friandises. Je suis sûr que ça touchera énormément. C'était le meilleur soldat de ma section. À Léon-Hénic, lundi 4 janvier 1915. Tout d'abord, merci pour votre gentille et réconfortante lettre. Je vous dois quelques explications complémentaires au sujet de l'incident qui a provoqué chez moi cette sorte de crise qui pourrait, à juste titre, en effet, vous inquiéter si elle se prolongeait. Rassurez-vous, je suis retombé sur mes pieds, et si je considère toujours cette punition comme injuste, et la façon dont elle me fut infligée comme une petite saleté, je ne songe plus à crier et à m'énerver. Quand mon lieutenant m'annonça que j'étais puni pour une affaire qui me semblait aussi ridicule, je commençai par sourire, mais quand il m'eut expliqué comment l'apprenait le colonel commandant le cantonnement, qui ne parlait rien moins que de cassation, je compris que c'était assez grave et je songeai à faire précisément ce que vous me conseillez dans votre lettre. J'avisai de mes intentions mon lieutenant, lequel me représenta qu'il avait déjà lui-même et aussi chaleureusement que possible plaidé ma cause. Il pouvait le faire, car, logiquement, le responsable était le chef de section, le sous-lieutenant, et non le sergent-chef de la demi-section. Je ne fus pas convaincu. Je partis très calme, trouvai le colonel Couturier, ou Couturet, qui me reçut aussitôt, et je lui tins ce langage à peu près. « Mon colonel, je viens d'être puni dans des circonstances que vous connaissez, mais je tiens à vous donner sur cette affaire quelques explications. » Je connais les hommes de ma section, et je suis moralement certain qu'ils ne sont pas coupables du vol commis aux abords de leur cantonnement. Si la chose s'était produite, quelque chose en aurait sûrement transpiré, et j'en aurais été informé. D'autre part, je suis certain que les bons soldats qui estiment leur sergent ne le laisseraient pas punir s'ils connaissent le coupable. Vous voulez me faire croire à moi, qui suis un vieux dans le métier et qui ai X années de service, que vous ne savez rien du vol? Allons donc, vous connaissez tous les coupables et vous ne voulez pas les livrer. » J'ai répondu, « Mon colonel, je n'ai jamais toléré de voleurs autour de moi. Si je connaissais les voleurs, je les ferais châtier sans pitié. Je ne suis plus un gamin, j'ai 32 ans. Mes officiers qui me connaissent m'ont fait inscrire sur l'état de proposition pour le grade de sous-lieutenant, et puisque cela ne vous suffit pas, je vais vous dire qui je suis. Là-dessus, j'ai décliné mes fonctions et mes titres, et j'ai ajouté « Je n'ai jamais menti, mon colonel, surtout pour éviter des punitions méritées. Si je vous dis que je ne connais pas les coupables, c'est parce que j'ai la conviction qu'ils ne sont pas chez moi. » J'ai ajouté en outre qu'au moment du vol, j'étais couché depuis 6 heures et que j'étais resté 30 heures sur le dos, ne voulant pas me faire porter malade pour donner le bon exemple à mes hommes. J'ai cité toutes les circonstances particulières, prouvant la non-culpabilité de mes hommes, ma parfaite innocence et ma bonne foi. Tout cela l'a légèrement ébranlé, mais a-t-il dit, il faut, du moment qu'une faute a été commise, qu'il y ait un responsable. C'est votre cantonnement qui a été déclaré responsable, il se peut qu'il ne soit pas coupable, c'est vous que votre lieutenant a désigné comme chef de cantonnement, je ne peux punir que vous. Arrangez-vous pour que votre lieutenant me désigne quelqu'un d'autre. Mon colonel, ai-je dit, c'est bien regrettable qu'il faille un coupable, et plus encore que ce soit moi. Mais je ne sais ce que vous penseriez de moi si je rejetais cette punition non méritée sur un camarade qui ne la mérite pas davantage. Je la subis. Je regrette beaucoup. Au revoir, mon ami. » Voilà à peu près la scène qui s'est passée. Mal remis de mon mal de tête et de ma fièvre, je me suis monté le cou là-dessus et j'ai maudit, en silence, l'institution qui permettait de telles choses. Et puis, la sérénité est revenue, c'est fini. Nous vivons des jours et des heures bien durs. La pluie rend nos tranchées extrêmement mauvaises. Nous pataugeons dans l'eau et dans la boue grasse qui colle aux chaussures et aux vêtements. Je me suis même légèrement enrhumé ces jours derniers pour être entré dans un mauvais coin jusqu'au genou. C'est à moi, guide en effet, de rechercher et de reconnaître les emplacements habitables, et souvent j'ai comme ça de l'eau jusqu'à mi-jambe et même plus haut, pour éviter aux hommes la douloureuse et froide surprise d'y entrer eux-mêmes. La relève se fait à la nuit tombante. C'est souvent 4 jours à rester ainsi, sans se réchauffer les pattes, et nous faisons 4 jours de tranchées, suivis de 4 jours de repos. Hier, les Boches ont bombardé nos tranchées. Ah oui, nous coulons des heures colorées et douloureuses souvent. On s'émeut un instant, et puis on ne repense plus qu'au grand but final et aux siens, parents et amis qui vous attendent. À Delphine, lundi 4 janvier 1915. La journée d'hier a été une de nos plus mauvaises et des plus terribles, non pour moi qui n'ai pas trop souffert, mais pour la compagnie en général et pour ma section en particulier. Nous occupions pourtant un des coins les moins mauvais de la tranchée, mais la pluie n'a cessé de tomber durant ces 24 heures, et voilà-t-il pas que ces salauds de Boches se sont mis à nous bombarder. Vers 11h30 du matin, petites et grosses marmites sont tombées sur nous, la plupart sans résultat. Mais la dernière, la 26e de la série, est arrivée en plein dans un petit abri occupé par les hommes de ma section, à quelques mètres de l'endroit où j'étais avec le lieutenant et quelques hommes. Deux de ces malheureux, l'un éventré, l'autre déchiqueté, ont été projetés à 4 ou 5 mètres de là, morts sur le coup. Un troisième, projeté aussi, se plaint de douleur dans la cuisse qui ne peut plus bouger. Un autre n'a eu que des égratignures et les deux derniers, rien. Ces trois-là, affolés, se sont sauvés vers nous, cependant que leurs voisins, pris de panique, se débinaient également, et parmi eux, deux imbéciles n'enjambaient-ils pas le parapet pour se jeter en rase campagne sous le fusil des Boches. Un ordre énergique du lieutenant les a fait revenir, et ça a été tout. Mais comme nous étions pris d'enfilade par les canons allemands, nous avons dû, pour ne pas nous exposer à une nouvelle canonnade, ne pas bouger de nos trous jusqu'au soir, et laisser les morts étalés sous la pluie, la face tragique, les traits crispés, dans la pose où l'obus les avait touchés. Je n'oublierai jamais ce spectacle. Impossible de transporter le blessé, même sous un abri, tant sa jambe le faisait souffrir. Impossible également au brancardier de venir le prendre sans s'exposer aux balles ennemies. Il y avait 10 à 15 centimètres d'eau en cet endroit de la tranchée. On a disposé, comme on a pu, une vague clé sous lui, on lui a mis sur le corps une couverture et une toile de tente, et stoïquement, sans une plainte, ce brave bougre, blessé déjà le 25 août, rentré depuis 6 semaines à la compagnie, a attendu le soir. Vers 4h30, notre major, Monsieur Mistarley, un excellent petit homme, frêle comme une jeune fille et courageux comme un lion, fraternel avec les malades, est venu, avec ses brancardiers et ses infirmiers, chercher les morts et les blessés. C'était lugubre, ce départ de brancard s'enfonçant dans la nuit, cependant que la pluie tombait toujours, inlassable et mauvaise, et que les hommes, parmi les arbres mutilés et les sacs éventrés, cherchaient à reconstituer leur paquetage et celui des disparus. Ça a été ensuite la veille au parapet, baïonnette au canon, quelques sifflements de balboche et la pluie, la pluie. Devant un brasero mourant, sous un vague abri, où l'on pouvait à peine tenir assis sur son sac, au centre de nos hommes, en attendant la relève, nous nous sommes assis, les trois sergents de la section, et nous sommes restés silencieux, absorbés dans nos pensées, levant le nez de temps à autre pour jeter un coup d'œil dans la direction de l'ennemi et nous assurer que les hommes veillaient bien. Et voilà, on revient. La cuisine rudimentaire installée avec ses tables boiteuses et ses chaises branlantes nous accueille. On se retrouve devant un feu, on mange chaud, on prend un café bouillant et la gaieté reparaît sur les visages. Trop sont déjà tombés pour qu'on s'apitoie longtemps sur le sort de ceux que nous semons en route. C'est plus tard et avec quel serrement de cœur que nous penserons à eux. À la même, mardi 5 janvier 1915. Hier au soir, je t'ai écrit, après le départ de la compagnie pour les tranchées, une petite carte où je te disais que je restais. J'ai eu bien de la chance, car toute la nuit, il a fait un temps affreux, de la pluie et encore de la pluie, et les malheureux camarades ont dû être trempés jusqu'aux os. Pendant ce temps, dans une pièce à peu près close et suffisamment chaude, je m'allongeais pour la première fois dans le sac de couchage que tu m'as envoyé. J'ai passé une excellente nuit, j'ai eu chaud, bien chaud, presque trop chaud, et j'étais heureux de me frotter contre cette étoffe où tes mains aimantes avaient couru, sur laquelle ta pensée s'était arrêtée et que ton amour avait couvé. Merci de tout cœur, merci également pour les autres gâteries, marron, chocolat, orange, conserve, etc. Je n'arrive pas à en faire le dénombrement complet. Hier au soir, j'ai reçu une carte de Dumur et une de Castagnier qui repart dans les automobiles malgré sa maladie de cœur. Il est vraiment enragé, ce gars-là. Dumur m'a envoyé un mot de Genève où il s'est mobilisé volontairement au service des prisonniers français en Allemagne. Je suis pour l'heure dans une petite cuisine aux meubles cassés pour faire du feu. Pas de poêle, un foyer, deux tables boiteuses, deux chaises également, et sur le sol, une couche de 4 à 5 centimètres de débris de toutes sortes. Le toit de la maison est effondré par les obus, le plancher percé par les shrapnels, et dans le foin accumulé dessus, il nous pleuvrait sur le nez continuellement. C'est égal, on est bien là-dedans si on compare avec la tranchée. À la même, jeudi 7 janvier 1915. Toute la journée d'hier, j'ai eu le spleen. Le local où j'ai dormi, la cuisine des sergents, était vide. Les cuisiniers et les fourriers qui l'occupaient étaient partis, dès le matin et avant le jour, pour préparer le cantonnement de repos où nous allons passer 4 jours. C'était triste, ce petit feu à demi-mort dans la cheminée. Un buffet dont il ne reste que les montants, 2 tables boiteuses et quelques chaises composent tout l'ameublement qui nage dans un innommable amoncellement de balayures. La fenêtre, veuve de ses vitres, a été bouchée d'un côté par une planche et de l'autre par une toile tendue et qui fut blanche jadis. Le vent et la pluie sifflaient là, et un jour pâle et triste filtrait à travers cette toile. Nous avons réattisé le feu, et là, devant, nous sommes restés, les sergents de la section, cependant que les hommes s'empilaient dans les abris en prévision du bombardement quotidien. Mes camarades se sont endormis devant le feu, tandis que je relisais tes dernières lettres et que je regardais longuement les chères photos que j'ai emportées. Je t'ai embrassé, ma chérie, et comme je me sentais un peu triste de la si longue séparation, je suis allé m'allonger sur la paille où j'ai fini par m'endormir. J'ai reposé ainsi jusqu'à la nuit. Au soir tombant, il a fallu fournir une corvée de 30 hommes pour porter, je ne sais où, aux tranchées, des piquets et des rondins. Pas moyen d'avoir un jour la paix. Un sergent s'est dévoué pour partir et je suis resté à la cuisine à préparer une tasse de thé pour l'heure où il rentrerait. Je dis une tasse, c'est un quart que je devrais dire, car de tasse ici, on ne sait guère ce que c'est. Enfin, après bien des instants d'attente, la relève des postes a pu se faire et nous sommes partis. Ça a été bien jusqu'à 10 minutes de ronveau. Mais là, une pluie battante nous a pris, de sorte que, de sec que nous étions, nous sommes arrivés quasi trempés au cantonnement. Comme d'habitude, ce cantonnement est assez mauvais, pas de paille ou presque, et quelle paille, de la poussière. Les habitants du pays, qui n'en ont pas eux-mêmes pour leurs bêtes, doivent profiter des heures où les compagnies se relèvent et où il n'y a personne dans les granges pour barboter de quoi faire la litière à leurs bêtes. Par contre, on nous a donné pour rester au cantonnement chacun une grande couverture, de sorte qu'après le dîner en commun à 11 heures du soir, j'ai dormi comme un roi en bénissant ma bonne petite femme chérie qui m'a envoyé un sac de couchage dans lequel on est si bien et où l'on a si chaud. À la même, vendredi 8 janvier 1915. Le capitaine, revenu de sa mauvaise humeur, nous a permis de manger tous ensemble et nous a facilité l'achat du vin, car depuis quelque temps, il est défendu d'en vendre à la troupe sans une autorisation spéciale du capitaine visée du commandant. Cette mesure est un peu draconienne, car que reste-t-il comme plaisir aux malheureux poilus si on leur enlève le litre de pinard à l'aide duquel ils oublient leur petite et grande misère ? Je ne vois rien de particulier à emporter de l'Andresse, sinon le peu qui est écrit de mon manuscrit, le braque bûcheron. Fais surtout attention de ne pas l'égarer. Il y a un chapitre honnête, mets-le avec les papiers. Ce serait autant de travail à refaire, et je ne manquerai pas de besogne en rentrant. À la même, samedi 9 janvier 1915. Ici, à Ronvaux, nous sommes soumis aux fluctuations d'humeur du capitaine, et cet homme-là manque par trop d'assiette mentale, hier charmant, aujourd'hui à n'approcher qu'avec des pincettes. Ce matin, il a gueulé parce que les hommes n'étaient pas assez propres, et c'est immédiatement sur les sous-officiers qu'il retombe dans ces cas-là. Voilà-t-il pas qu'il veut que nous ne quittions plus les granges et que nous présidions à tous les décrottages? Nous sommes, d'après lui, des rossards qui n'en fichent pas un coup. N'empêche qu'hier, avec le travail de jour, j'étais éreinté le soir. Et revu de pleuvoir. C'est à se demander si l'on n'est pas mieux dans la boue des tranchées, tant les jours de prétendu repos deviennent des jours de perpétuelle tracasserie. Ce matin, nous avons eu marche, hier exercice. Il faut voir l'état dans lequel nous rentrons de la tranchée, le fumier du cantonnement, la boue des abords, la quasi-impossibilité de se laver, sinon dans une eau vaseuse, merdeuse, infecte, pour comprendre tout le ridicule de ces mesures. Aussi, les effectifs vont-ils en se réduisant de plus en plus. On évacue, on évacue. Une de mes escouades se réduit à 5 hommes maintenant. Ici, dans la souffrance qui fait tomber les masques, je vois les bas-fonds de l'âme humaine, et la lie, et la vase, et la merde. Combien peu d'officiers comme soldats peuvent se vanter d'être des hommes, des hommes. Ma bonne chérie, cela ne fait que m'attacher plus que jamais à toi. Je t'aime de toute mon âme, et plus encore si possible que je ne t'ai jamais aimé. Je pense à toi sans cesse, et tu planes, même lointaine, sur toute ma vie. À la même, vendredi 15 janvier 1915. Nous voici encore une fois à Ronvaux, paisiblement installés dans un local qui n'est pas une cave, mais où l'on y voit gouttes sans chandelle et où nous avons une confortable litière. Je te l'ai dit dans ma carte d'hier que la journée, comparée à celle du 12, avait été très douce. À la suite de celle-là, du 12, il y avait 75 malades à la compagnie, et c'est moi, comme sergent de jour, qui les ai conduits à la visite dans un petit local où ils s'entassaient, se pressaient comme un troupeau. Le soir, je n'avais que 20 hommes sur 58 pour gagner la tranchée. J'étais le seul sergent de la section qui restait aussi, un autre étant parti pour Verdun, conduire un détachement déclopé, et le troisième, le petit Ferret, qui nous était arrivé du dépôt, tout feu tout flamme, après une convalescence de typho, croyant que c'était encore comme au début, évacué de nouveau, éreinté après 15 jours de ce régime, et parti en jurant qu'on ne le reverrait plus. C'est que la journée du 12 avait été vraiment terrible. Le petit Ferret, entre parenthèses, était tombé dans un trou d'obus plein d'eau, et sans un copain qui lui a tendu une main secourable, il y serait peut-être encore. La nuit du 14 était aussi sombre, mais on commence à connaître le chemin, et, sauf les endroits où l'on doit forcément en passer dans une trentaine de centimètres de boue braineuse, je n'ai pas enfoncé dans un trou, ni dégringolé dans un fossé. J'ai pris mon poste en avant et j'ai fractionné la petite troupe en petits postes, cependant que le lieutenant, éreinté, vanné, fourbu, se terrait sous un abri et n'en bougeait plus avant le jour où il allait rejoindre le capitaine dans un autre abri plus confortable. Pour moi, ayant repéré un abri plein de paille sèche, je m'y suis collé, allongé forcément, car on ne pouvait y tenir ni debout, ni assis, ni accroupi. J'ai rabattu une toile de tente qui le fermait en avant, et j'ai mangé, lu lettres et journaux, puis, malgré une canonnade violente aux environs, je me suis endormi du sommeil du juste de 7 heures du matin à 2h30 après-midi. Nouveau repas, nouvelle sieste et enfin réoccupation des emplacements en attendant la relève. Pas de pluie, ça va. Pas d'obus sur nous, ça va encore mieux. C'est égal, l'étape a été longue de Riaville à Ronvaux et le sac me coupait les épaules. La nuit cependant avait été fertile en incidents comiques. Mon camarade Houdin, qui commandait la 3e section, avait laissé en arrière, pour ramener des hommes chargés de gabions, un caporal, Fossart, un bougre avec un fort accent de je ne sais où, roulant et air, et à cheval sur le règlement, pas très malin d'ailleurs, vrai Pitou ou Dumanet. Il devait arriver un quart d'heure après les autres, mais 3 heures étaient déjà passées et qu'il n'avait pas encore reparu. Enfin, il arrive et Houdin l'interpelle. « Eh bien, c'est 1 heure pour arriver. Qu'est-ce que vous avez fichu ?»« Ah, sergent, fait Fossart, vous ne savez pas, je me suis égaré. »« Ah, eh bien, c'est du propre. Un caporal qui ne sait pas trouver son chemin, et vous croyez qu'on va vous donner de l'avancement ?» Ah, sergent, vous savez, il n'y a pas que moi, il y a des plus malins qui se sont égarés aussi. » Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, figurez-vous, sergent, que je m'ai égaré. Vous me l'avez déjà dit. Et voilà que tout à coup, je vois quelqu'un devant moi. Alors je crie, halte là, qui vive? On ne répond rien. Alors j'empoigne le poilu. Mais répondez donc, nom de Dieu. Alors celui que je souhaitais me dit, capitaine Pierre de la 11e compagnie. Immédiatement, malgré mon fusil, je salue et je dis, caporal Fossart de la 2e compagnie. Mon ami, nous nous sommes égarés, dit le capitaine, et nous n'avons pas de point de repère. Il faut nous asseoir et attendre quelque chose qui nous permette de nous orienter. Là-dessus, ils s'assoient et font la causette. Et tout à coup, rafale de mitrailleuse. Ah, fait le capitaine, nous y sommes cette fois. Voilà Marchéville devant nous. Par conséquent, nous allons nous tourner le dos et marcher droit devant nous. Comme ça, tu arriveras à ta tranchée et moi, j'irai à Riaville. Au revoir, mon gars. Bonsoir, mon capitaine. Et ils s'enfoncent tous les deux dans la nuit. 2 minutes plus tard. Halte-là, qui vive ? France, capitaine Pierre de la 11e compagnie. Caporal Fossart de la 2e compagnie, et en sourdine, merde. Qu'est-ce que vous fichez là ? Mais je ne sais pas. Engueulade, et il se sépare. Mais vous savez, sergent, disait Fossart en racontant la scène à Houdin, je ne sais pas lequel qui s'était gouré, et qui était le con, mais je crois bien que c'était le capitaine, mais je ne pouvais pas y répondre. La même nuit, le caporal S de la première section est tombé en plein dans une feuillée pleine de merde, et il empoisonnait que c'en était une bénédiction. Le caporal S est une sorte d'hystérique qui croit qu'il a mal à la main. Il est d'ailleurs en passe de devenir curé, se saoule comme un polonais chaque fois qu'il peut le faire, et porte au cou, suspendu à une chaîne, un crucifix d'argent de 15 cm de long. Et Houdin, qui est chineur et encore plus mécréant que moi, de lui dire « Alors, salaud, t'as foutu ton bon Dieu dans la merde ?»« ah, mes enfants !» répète S, et il agite sa patte malade, ou du moins celle qu'il croit elle, en se lamentant sur la tristesse des temps. Voilà, ma chérie, les événements de la nuit. Notre compagnie, à commencer par le capitaine, qui, je crois, se décolle, est très fatigué, mais je reste parmi ceux qui tiennent bon. Encore une fois, je me sens bien retapé et solide, malgré ces mauvaises nuits. J'ai reçu 2 cartes de ce bon et cher Hennick. Tu me raconteras sa visite. D'ailleurs, je vais lui écrire à Paris durant ces 4 jours. À Paul Vimereux, 16 janvier 1915. Ce n'est plus le goupil d'il y a un mois qui, de son terrier, envoie son salut fraternel à Misto, mais un grenouillard enlisé dans un marécage très braineux. De l'eau, que d'eau, eût dit feu Magmaon, et que de boue, que de boue. Pour corser la fête, les Boches nous envoient des marmites. Dernièrement, nous avons été particulièrement servis, et 2 de mes hommes, à quelques mètres de moi, ont sauté en l'air, horriblement déchiquetés. Nous sommes entre les pattes du destin. Si dur qu'ait été votre randonnée de Charleroi à la Marne, l'Aisne, la Somme, au moins, avez-vous vu du pays? Ici, nous avons tourné autour de la place en faisant tête à la bête pour finir à cette guerre de tranchées éreintante et monotone. Voici 4 mois que je n'ai couché dans un lit, mais on s'habitue si bien à la paille, et dans un sac de couchage confectionné par Delphine, je dors comme un prince. Dans un sac de couchage qu'on est bien à 30 ans. Dans 6 jours, j'en aurai 33, comme le Christ. Mais cela me fait penser que si j'étais à Paris, cet anniversaire serait l'occasion de lamper une ou deux de ces bonnes vieilles bouteilles d'Arbois dont la comté s'honore. Ici, pas même le quart de vin réglementaire, le sirop de grenouille et la boisson habituelle des vaseux. Les vaseux, c'est nous. J'ai eu par Delphine des nouvelles de Paris. La littérature est dans le marasme, mais le Mercure, m'écrit Valette, va reprendre sa publication, et j'ai envie de lui préparer une chronique des tranchées qui pourrait être curieuse. Voilà, mon vieux Misto, ce que devient le goupil des forêts comtoises qu'il voudrait bien revoir au plus tôt. Ce serait avec joie qu'il verrait son cher tondeur des prairies lâchant le pis nourricier des vaches picardes pour quelques bouteilles de derrière les fagots et moult lampées de kirsch, prunes et prunelles de fabrication garantie par le papa du boss. Je termine sur ce vœu, mon bien cher ami, et vous donne mon accolade fraternelle. À Marcel Martinet, le 16 janvier 1915. Le grenouillard des tranchées de Riaville, sortant pour 4 jours de ses eaux limoneuses et de sa vase, prend le crayon pour vous donner de ses nouvelles. Tout d'abord, sauf une fâcheuse pointe de rhumatisme à l'épaule, je me sens assez en point et bon pour continuer encore quelque temps du moins cette existence d'amphibie. Vous ne sauriez vous figurer dans quelle épaisseur de boue nous pataugeons. Tous les jours il pleut dans ce sacré pays. Je ne sais pas s'il en est de même à Paris, mais de ma charogne de vie, je n'ai tant vu pleuvoir. Petit à petit, la plaine devient un lac, chaque sillon est une rigole, chaque fossé un ruisseau, et la tranchée devient de jour en jour l'égout collecteur de tout ça. On a été obligé d'établir des tranchées en gabion sur le sol, mais elles offrent de trop faciles points de repère à l'artillerie, et les salauds en profitent pour nous envoyer des marmites. Presque chaque jour, nous avons à enlever des blessés ou des morts, et il faut s'en remettre uniquement à sa bonne étoile. Nous sommes ainsi 4 jours trempés, à la suite de quoi nous revenons en arrière sécher nos fringues et nos viandes, nettoyer nos flingots et nous emplir les tripes d'un peu de mangeaille chaude. D'ailleurs, nous nous restaurons largement durant ces 4 jours, plein la lampe, comme dirait Trick. J'ai reçu récemment des nouvelles de Rocher, qui fait à Alençon son apprentissage de troufion, dur métier à son âge et qui n'a pas l'air de lui plaire extrêmement. Qu'il me tarde, mon cher vieux, de causer longuement avec toi et de mettre au point nos idées. J'ai écrit à Descaves une longue lettre à ce sujet. Nous aurons sacrement de besogne, je crois, quand s'en sera fini du militarisme allemand, et je crains bien qu'il ne faille lutter encore chez nous avec plus d'âpreté que jamais contre de fâcheux courants. L'armée sera toujours l'armée, une triste institution, nécessaire pourtant. À Delphine, samedi 16 janvier 1915. Hier nous avons été tranquilles, mais aujourd'hui l'embêtement recommence. Ce ne sont que revues à passer, états à fournir, etc. Et cet inconscient de capitaine qui a le culot d'envoyer des journaux aux hommes et qui gueule après qu'il ne fiche rien. Je lui ai fait retourner ses journaux en lui faisant dire que les hommes n'avaient pas le temps de les lire. Il paraît qu'il est furieux, mais je l'attends. Dans les autres sections, les sergents ont agi de même. Cela lui fera peut-être comprendre que les jours de repos ne sont pas des jours de repos et qu'il nous emmerde par trop. À l'instant où je t'écris, il vient de me faire retourner le journal en me faisant dire que les hommes le liront quand ils auront un moment de repos. A-t-il compris? Je suppose que oui. Et Toto, qu'a-t-il fait, le brave gros? J'imagine son chagrin d'être séparé de toi, lui qui est si bien habitué à son petit appartement où il règne en souverain. C'est comme cela qu'il aura souffert de la guerre, lui aussi. Tout le monde aura pâti. À la même, dimanche 17 janvier 1915. Il paraît, je viens de le lire à la décision, qu'il est interdit de donner des indications sur l'endroit où l'on se trouve et sur l'unité à laquelle on appartient. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et peut-on dire qu'un caporal est tombé dans la merde ou que nous avons un capitaine qui nous fera crever à la besogne ses sous-officiers? Encore si c'était besogne utile, mais son intervention, dans la plupart des cas, a pour heureux résultat de tout compliquer et de tout embrouiller. Je me demande si tu recevras la lettre où je te demandais un caoutchouc. On ne sait jamais, du moment que la correspondance est visitée, vérifiée, sondée, taraudée, même la correspondance entre deux époux. Enfin, on en a enduré de plus dur pour le salut de la vieille France, et il faut accepter cela comme le reste d'une âme égale et d'un cœur content. Je suis enchanté, ma chérie, de ta lettre d'hier, où tu me racontes la visite de cet excellent ami Yannick. Tes lettres sont délicieuses, pleines de charme, et c'est pourquoi je tiens tant à les conserver. Pourvu que ces messieurs du cabinet noir ou de la poste ne s'avisent pas de les retenir sous prétexte qu'elles renferment des renseignements sur les mouvements de la zone des armées. Il ne faut pas confondre administration avec intelligence. Si on allait prendre un élan de tendresse pour un renseignement stratégique, qu'est-ce que nous deviendrons? On a distribué aujourd'hui, très parcimonieusement d'ailleurs, des pantalons. Ce n'est pas le pantalon rouge, mais le velours du charpentier, le vulgaire Lafond, de sorte que quelques-uns de mes poilus ont tout du terrassier. Quand le mien sera abîmé, et si le capitaine est encore ici, comme il fait des tas d'histoires et de chichis pour un malheureux échange, je te demanderai de m'envoyer mon pantalon de chasse qui est resté là-bas, à l'Andresse. C'est tout de même raide de se vêtir soi-même, mais tout est préférable à l'interrogatoire ridicule qu'il fait pour donner à un homme dont le grimpant n'est plus qu'une loque un malheureux falzar. À la même, lundi 18 janvier. À 8 heures du matin, revue du capitaine sous la route d'Audiomont pour l'échange des effets. Il fait froid, et malgré cela, il faut enlever cache-nez et capote aussi pour voir les pantalons. Sa mauvaise humeur est à son comble. Parce qu'un homme a brûlé sa capote au bras zéro et que la chose n'a pas été signalée, il ne parle rien de moins que de me casser. Au reste, la section, me dit-il, est la plus mauvaise de la compagnie. Pas de discipline, on ne fout rien. Je ne peux m'empêcher de hausser les épaules. Tous les sous-officiers sont dans le même sentiment de colère contre une telle injustice. Le soir, nous apprenons que le pauvre homme est évacué d'office pour trouble de la vue. Nous buvons largement à son rétablissement. Ce n'était pourtant pas un méchant homme, au contraire, mais rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Avec lui, on pouvait toujours attendre le pavé de l'ours. Il est remplacé dans le commandement de la compagnie par un lieutenant que l'on dit excellent homme. C'est M. de B., à la physionomie hirsute et au poil de sanglier. Il ne se lave jamais et sale comme la boue de la Meuse. On dit même qu'il ne porte ni chemise ni chaussettes, mais je crois qu'on exagère un peu. Enfin, c'est un type. À la même, mardi 19 janvier 1915. Nous arrivons vers 4 heures aux tranchées de droite. 5 abris, dont un très solide, mais pas de paille. Heureusement, une corvée, partie pour chercher des rondins, m'en rapporte 2 bottes, et nous passons, Dastis et moi, la journée là-dedans. Que les heures sont longues. J'ai froid aux pieds. Il neige. L'horizon gris tantôt s'illumine et s'éclaircit, tantôt s'embrume et s'assombrit. Enfin, le soir vient, et nous pouvons nous réchauffer en battant la semelle. À la même, mercredi 20 janvier 1915. Derrière nos gabions, nous avons commencé à faire les 100 pas, le cache-nez autour du cou, la couverture sur le dos, causant avec les sous-officiers de la section voisine, parlant de la guerre qui dure et de ce que nous ferions si nous étions chez nous. Grâce à quelques plaisanteries de l'ami Houdin, un charmant camarade, représentant de la maison de champagne Devaux d'Épernay, la causette n'a pas dégénéré en conversation funèbre et nous sommes restés gais jusqu'à l'heure de la relève. Je ne t'ai pas encore parlé de l'ami Houdin, un barbu plein de gaieté, qui n'aspire qu'à la paix pour épouser Marguerite, sa fiancée, dont il s'entretient souvent avec moi. Il a même tellement insisté qu'il a réussi à me faire accoucher d'un quatrain à son intention. Je l'ai écrit en pensant à toi. D'ailleurs, il peut s'appliquer à beaucoup, il n'y a qu'à changer le nom. Le voici, du reste, autant que je me rappelle. L'automne a mis en nous la rouille de ses teintes. Ma Delphine est ce soir, grave, nous devisons, songeant à la très belle, aux chers billets qui sont comme un prolongement des ferventes étreintes. Pour Houdin, j'ai mis Marguerite et tout le monde est content. À Edmond Rocher, mercredi 20 janvier. Voici que m'arrive ta lettre du 13. Je m'étonne que tu n'aies pas reçu l'épître annoncée, car si je ne m'abuse, je t'ai envoyé depuis au moins 2 lettres et 1 carte, mais la poste a des lenteurs dont il faut l'excuser. Tu me dis avoir l'intention de venir me rejoindre. Que je serais heureux, mon vieux bougre, de t'avoir à mes côtés, mais, en toute sincérité, si tu devais nous rejoindre immédiatement, je te dirais « Attends et ne viens pas, car déjà malade et secoué par la toux, tu ne serais pas 8 jours avant d'être évacué sur l'infirmerie ou sur l'hôpital. Songe que, sous mes apparences frêles, je suis extrêmement résistant, que j'ai 3 mois d'entraînement progressif, que beaucoup qui étaient comme moi sont déjà à bout et qu'à plusieurs reprises j'ai cru que je serais obligé de m'arrêter. D'ici 2 mois, quand viendra le printemps, alors si tu peux venir, ça ira, et vraiment, il y aura encore assez bien de besogne à accomplir. Ce sera même, je crois, comme coup de chien le plus terrible, et celui qui ne tombera pas ramassera l'autre. Au reste, d'ici à quelque temps, si des nominations ont lieu, je changerai encore de compagnie, et il y aurait à prévoir, si tu venais, de nouvelles affectations à chacun de mes changements. Pour l'heure, j'ai un conseil à te donner, reste là-bas. Un sergent de ma compagnie, qui avait été évacué après les premiers combats, et qui croyait avoir tout vu, avait demandé à revenir parmi nous. 8 jours après, éreinté, fourbu, à bout, on devait le réexpédier à l'infirmerie. J'ai reçu de bonnes nouvelles d'Enic, rentré à Paris. Il est allé voir Delphine avant son départ pour Landres, car elle a rejoint le 15 le papa du Beauce, et lui a parlé très affectueusement de moi. Reçu aussi quelques toutes petites cartes de Trick, m'annonçant sa prochaine entrée dans l'auxiliaire. Qu'est-ce qu'il doit foutre pour ne pas trouver le temps d'écrire? Mercereau, brancardier au 366e, 24e compagnie, m'envoie de temps en temps de ses nouvelles. Sais-tu que Néral est tué, et Paul Cornu, et Louis Codet, et les 2 Bonnef? À quand la fin de la liste funèbre? Si ta prophétie concernant la fin de la guerre pouvait seulement être vraie. Rétablis-toi, mon cher vieux, pour le bon coup de balai final. Je te souhaite avant peu les sardines de caporal. À Marcel Martinet, vendredi 22 janvier. Coup sur coup, je reçois 2 de tes lettres et j'en suis bien content. À la vérité, je me doutais bien que tu t'engourdissais. Moi-même ici, si rude que soit la vie que nous menons, ou peut-être parce que rude dans sa monotonie variée, j'entends par là qu'il y a un ronron dans lequel divers événements s'enregistrent, je me laisserais facilement aller si je ne me secouais pas à vivre comme une brute. Je m'astreins chaque jour à lire les journaux que je reçois, l'Humanité, le Temps, le Bonnet, quelquefois l'Intrant et la Guerre sociale. Régulièrement arrive, tous les jours, pour être vendu sur le front, quantité d'Écho de Paris et de Petits Parisiens, quelques matins et journal, et c'est tout. Les communiqués officiels sointent l'ennui, je ne les lis plus que par habitude. On progresse une semelle, on prend une feuillée d'assaut, on démolit un gabion. Nous ferions mieux de relire l'Iliade, disais-je l'autre jour à Le Guy, mon lieutenant, le fils du professeur de la Sorbonne, qui est un charmant garçon, mais d'un pessimisme outrancier. Pour lui, il n'est pas certain que nous ayons fini pour 1916. Quelle joyeuse perspective! Passe encore de se battre en été, mais recommencer la campagne d'hiver, je crois que c'est impossible, plus encore de l'autre côté du Rhin que chez nous. Chaque jour, il nous vient des prisonniers volontaires, exténués, fourbus, et qui déclarent tous qu'ils en ont assez. Il paraîtrait même, d'après leur dire, que deux compagnies entières seraient sur le point de se rendre. Chez nous, la fatigue est grande, évidemment, mais on tiendra. Et pourtant, il est dur de conduire des hommes fatigués par 5 mois de campagne. Je dois montrer par instant une dureté de cœur qui n'était guère dans mon tempérament. Quelle doigté, quel flair il faut pour discerner entre le bon soldat éreinté et le mauvais poilu qui tire au flanc en imposant aux camarades qui restent des fatigues supplémentaires. Je dois paraître dur. Si je laissais percer le moindre apitoiement, tout ficherait le camp à la dérive. C'est ennuyeux à constater, mais le meilleur moyen de conduire le troupeau, la majorité, c'est encore à coup de trique. Quand la campagne sera finie, nous en aurons d'autres à recommencer, mon cher vieux. Les antiques forces d'écrasement veulent relever le nez, et il faut reconnaître qu'on leur laisse un peu la partie belle, le gouvernement en tête. Je n'ai pas le temps de mettre au point mes idées, mais j'ai l'intime conviction que cette guerre est salutaire, et qu'elle est la suite et la continuation logique des campagnes de la Révolution. Il y a progrès. En 93, nous étions seuls contre tous. À l'heure actuelle, nous sommes presque tous contre un. S'il en est ainsi, que je crois, c'est un beau résultat. À bientôt, mon cher vieux, je t'écrirai chaque fois que nous sortirons de repos, c'est-à-dire tous les 8 jours. En attendant, comment se comporte le citoyen Toto? J'espère qu'il fait avec Marie-Rose une paire de bons amis. À Delphine, samedi 23 janvier. Nous sommes revenus hier soir de Pinteville, ici par un magnifique clair de lune, sur une bonne route gelée où les clous de mes souliers sonnaient secs, et nous avons trouvé nos cantonnements d'il y a 12 jours, notre petite cave hospitalière où nous avons bien dormi sur de la paille pas trop défraîchie. Nous n'avons pas eu froid, c'est l'essentiel, et la journée d'aujourd'hui a été aussi calme qu'au dernier cantonnement. Pas un obus. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes exempts de bombardement, et le capitaine de H, chef de cantonnement, vient à l'instant de nous prévenir qu'il se pourrait bien que nous ayons alerte dans la nuit et nous donner les instructions nécessaires pour le cas où la chose adviendrait. Nous venons de passer une soirée très gaie. Il y a eu concert, retraite au flambeau dans la cuisine avec une bougie au bout d'un fusil, un balai, une hache et une massue, tellement et si bien qu'on est venu nous prier d'y mettre un bouchon. Nous avons fait revenir de Verdun, grâce à la complaisance de notre nouveau lieutenant qui commande la compagnie, un tas de provisions qui nous assure 3 jours d'une nourriture abondante et variée et du vin à boire. À la même, lundi 25 janvier 1915. Hier soir, vers 5 heures, le brave Philippe, cuisinier de ma section, est venu mystérieusement demander à me parler. C'était pour m'offrir un lit que de braves gens d'ici, à qui il a rendu quelques services, lui avaient offert à lui et qu'il avait accepté pour moi. Je n'ai pas voulu être égoïste et je l'ai partagé avec mon camarade Houdin. Cette nuit donc, nous avons dormi dans un lit de plumes. Dormi, non, reposé, oui. Nous sommes tellement déshabitués de ces douceurs que, quand elles nous viennent, nous ne pouvons plus les goûter. Dorénavant, tous les 12 jours, chaque fois que je reviendrai ici, j'aurai mon plumard qui m'attendra, et dans l'autre cantonnement, Philippe s'occupera de me trouver quelque chose du même genre. Et je ne lui ai rien demandé, et tu vois qu'on est tout de même aimé de ces poilus, encore qu'on les fasse un peu trimer par moments. À la même, mardi 26 janvier 1915. Cette nuit, j'ai couché seul dans le grand lit dont je t'ai parlé hier et que m'ont offert de braves vieux d'ici, le père et la mère Laguerre, qui sont aux petits soins pour moi. Je crois que mon brave Philippe leur a un peu bourré le crâne à mon sujet. D'après lui, je serai l'illustre Louis Pergaud dont parlent les journaux. Il a vu mon nom dans l'intrant et se trouve pénétré de respect pour moi et d'admiration aussi. Il a réussi à faire partager à mes hôtes cette admiration, et les voilà qui se trouvent très honorés d'offrir un lit au romancier, et s'excusent avec quelle délicatesse de ne pouvoir lui offrir mieux. La chambre que j'occupe est une vaste pièce carrée de 4 mètres de côté environ, avec une porte et une fenêtre. Cette dernière est sans vitre, ce qui est plutôt gênant par ses froidures, mais on a tendu un épais rideau qui empêche l'entrée de l'air, et avec une bougie allumée, on est chez soi. Le plancher est quelque peu raboteux. Les murs blanchis à la chaux s'adornaient, avant que le bombardement n'ait tout fait dégringoler à terre de quelques images de piété, d'un crucifix et d'un miroir, du moins c'est ce que j'ai aperçu sur une cheminée immense dans laquelle siffle le vent et par où le froid dégringole. Mon lit est antique comme mes hôtes, il est de vieux chêne, solide et résistant. Je ne sais pas s'il a un sommier, mais j'ai un matelas de plumes, une petite couverture de laine et un édredon très chaud. Le père Laguerre est ridé, tortu, cassé, avec des yeux intelligents. La femme est petite, vive, enjouée, empressée. Elle a dû être fort jolie dans sa jeunesse, mais à bientôt 60 ans, elle paraît plus que son âge, parce que, m'a-t-elle dit, ils ont peiné dur sur cette terre qu'engraisse maintenant le sang de ceux qui sont tombés et qui n'ont pu ensemencer l'automne dernier. Mon camarade d'Astis vient d'être nommé adjudant. Ma nomination est peut-être proche, et comme officier, j'aurai droit à avoir un Browning au lieu d'un revolver réglementaire. As-tu emporté l'outil avec toi ? Dans l'affirme Steve, envoie-le, bien enveloppé et déchargé, dans le prochain colis. Joins-y les cartouches qui restent. Sinon, tâche de te rappeler où il est. J'écrirai à Château ou à Martinet pour qu'il aille le prendre et qu'il me le fasse parvenir avec les munitions nécessaires. À la même, samedi 30 et dimanche 31 janvier 1915. La veille dans la tranchée alterne maintenant avec les travaux, et une nuit, sous un clair de lune romantique autant que glacial, j'ai fait la navette du village à la tranchée avec 60 poilus égrenés derrière moi, un gabion sur l'épaule. J'avais adjoint une trique à mon armement, et comme à cause du gel je marchais lentement, j'avais l'air d'un berger conduisant son troupeau, ou plus exactement d'un croque-mort menant un convoi funèbre. C'est d'ailleurs ce soir-là qu'un de nos hommes a été tué au moment où il s'apprêtait à partir en patrouille. D'ailleurs, il faisait si clair que toute reconnaissance en avant aurait été inutile ou dangereuse, et du coup, elle a été supprimée. Nous continuons à être bombardés par intermittence, sans grand dommage, au village et à la tranchée. On y est tellement habitué, ainsi qu'au sifflement des balles, qu'on y fait presque plus attention. Au début, quand nous nous rendions à la tranchée, même par les temps sombres, nous prenions toutes sortes de précautions, nous défilant avec soin dans le boyau. Maintenant, par les clairs de lune les plus éclatants, nous allons carrément en colonne par deux jusqu'à nos emplacements, et nous sommes moins canardés qu'au premier jour. Tous les soirs, je fais visiter mes sentinelles, et il y en a qui sont très en avant. J'y vais sans crainte ni souci, on ne s'en fait pas, les balles qui tuent sont toutes des balles perdues, ricochées ou balles tirées au hasard, ce qui montre bien l'inanité de toute précaution. Le destin est le destin, et nul n'échappe quand l'heure a sonné. Il suffit qu'on soit visé, surtout dans la nuit, pour être manqué. Ainsi se réduisent les chances d'être oxy. Le malheureux qui est mort il y a 3 jours, d'une balle au ventre, avait le pressentiment de sa fin. En quittant le cantonnement, il avait dit « Je n'y reviendrai pas », et pourtant il était en pleine santé. Le soir même, avant de gagner la tranchée et en prenant son café, il disait aux autres « C'est probablement le dernier que j'avale ». Les camarades qui se moquaient de lui ne croyaient pas que ce serait si vrai. Depuis quelque temps, nous jouissons, si je puis dire, d'un froid sec extrêmement piquant. On bat la semelle la nuit dans la tranchée, mais de jour, dans les abris où l'on ne peut bouger, les pauvres arpions sont quelquefois en piteux état. Malgré cela, peu d'accidents, moins de pieds gelés qu'au temps des grandes pluies. Le clair de lune illumine les nuits, une légère poudrée de neige couvre la plaine par endroits. Nos tranchées là-dessus tranchent formant des lignes sombres. Le terrain gelé est glissant, car avant les froids ce n'était que boue et eau. On avance prudemment, et malgré cela, plus d'un pique une tête et se ramasse comme il peut. Nos cantonnements et nos abris ne sont plus d'une extrême propreté, malgré toutes les précautions hygiéniques prises. Ainsi, il y a des poux presque partout, et il n'y a guère de poilus qui n'aient eu à expulser quelques-uns de ces locataires emmerdants. On arrive à en rigoler, à la guerre comme à la guerre. Pour mon compte, malgré des battues répétées, je n'ai découvert encore qu'un seul de ces asticots dans mon terrain de chasse. Je l'ai pincé en vadrouille sur mon cou, où il venait probablement de s'installer, et où je ne lui ai pas laissé le temps de s'établir avec sa famille, croître et se multiplier selon la parole de l'Écriture.